Bonjour et bienvenue sur le podcast du bonheur et dans l'enseignement professionnel. Je m'appelle Karine Larmitou et je suis enseignante éco-gestion option commerce et vente dans le lycée de Mirande dans le Gers. Le nom de ce podcast, le bonheur et dans l'enseignement professionnel, est, vous l'avez compris, un clin d'œil au film Le bonheur est dans le pré, qui a été tourné dans le Gers et dont le titre a été décliné sous plusieurs noms et marque, comme Le bonheur est dans le Gers, une des plus connues. Je trouve d'autant plus intéressant que ce nom évoque le bonheur, car c'est ce que je voudrais que mon podcast reflète. En effet, je voudrais y partager toutes nos expériences, nos projets, nos réflexions, nos moments de doute aussi, mais surtout le bonheur que procure notre métier d'enseignant en lycée professionnel. Le bonheur est dans l'enseignement professionnel. Merci à tous pour l'accueil que vous avez fait à mon podcast. Une fois n'est pas coutume, je commencerai donc par mon petit bonheur, celui que vous m'avez offert en écoutant mon podcast. Plus de 200 écoutes. Merci. Ce premier épisode était consacré au podcast, justement, comment j'utilise ce format avec mes élèves et pourquoi. Pour faire une transition avec l'épisode d'aujourd'hui, où je vais vous parler des outils numériques dans nos pratiques, je souhaitais vous parler de monoral.net. C'est une plateforme dédiée à l'oral, qui est RGPD, car les élèves n'ont pas besoin de se créer un compte pour l'utiliser. Sur cette plateforme, le professeur prépare les instructions d'oral pour ses élèves en donnant des consignes et surtout un temps maximum d'enregistrement. Monoral.net crée un lien que nous n'avons plus qu'à partager avec les élèves. Chaque élève s'identifie seulement avec son prénom et s'enregistre en direct sur la plateforme. Le professeur reçoit sur son espace les oraux de tous les élèves et un système de feedback est possible. Le professeur peut faire des commentaires, donner des conseils oraux ou écrits et le renvoyer à l'élève. Transition faite, vous l'aurez compris, ce nouvel épisode parlera donc des outils numériques et de leur utilisation possible en classe. Je donnerai des exemples très précis de leur utilisation en se basant toujours sur nos pratiques. Le numérique est de plus en plus présent dans nos pratiques et surtout depuis le confinement de 2020. Nous avons tous plus ou moins été forcés d'intégrer davantage de pratiques liées au numérique, comme des quiz en ligne par exemple. Je suis quelqu'un qui me passionne pour tout ce qui est numérique. Je l'avoue, c'est très facilitant, car ça ne me fait pas peur de découvrir un outil seul. Je vais chercher des tutos et le prendre en main. Du fait de cette appétence, travailler avec le numérique ne me semble pas me prendre plus de temps que ça. C'est non négligeable, car je le sais, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et pour certains, même le fait d'imaginer chercher pendant des heures le pourquoi du comment va même les arrêter net et ne pas utiliser l'outil. Ce qui est bien dommage, car il y a des outils qui peuvent changer nos pratiques et permettre de motiver les élèves. D'autres qui vont nous permettre au final de gagner du temps pour des évaluations aussi, par exemple. Ou encore des outils qui vont ludifier certaines séances et de varier nos pratiques. Les élèves et le numérique. Il est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à être à l'aise avec le numérique et leur téléphone portable. Mais au final, nous avons encore beaucoup de choses à leur apprendre. Eux aussi nous apprennent quelquefois des astuces, des pratiques, et c'est valorisant pour eux. Pix les aide aussi énormément à se former au numérique sur les 16 compétences au total. Pix est une plateforme très bien construite et très facile d'usage, où les élèves se forment seuls. La certification, quant à elle, que nous devons leur faire passer au lycée, est tout aussi facile à mettre en place grâce aux nombreux tutos créés par Pix. Pix ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme une plus-value à nos enseignements. Pratiquement toutes les compétences Pix sont vues dans nos enseignements. C'est un atout pour nos élèves de pouvoir valoriser ces compétences. Je pense aussi qu'il ne faut pas s'imposer d'utiliser un outil seulement si nous le maîtrisons. Sinon, nous nous freinons. Bien sûr qu'il faut en connaître l'essentiel pour pouvoir aider les élèves, mais de plus en plus souvent, ils le découvrent seuls après quelques explications. Et pour cela, oui, il faut leur reconnaître leur rapidité à s'approprier un outil. De toutes les manières, qui pourrait dire qu'il connaît tous les outils et qu'il les utilise tous? Cela n'a aucun intérêt, tout comme faire du numérique parce qu'il faut faire du numérique. À coup sûr, cela ratera. Il y a une certaine surenchère de certains qui veulent toujours avoir le dernier outil à la mode. Moi, je suis plutôt de celles qui, une fois avoir trouvé les bons outils pour telle ou telle utilisation, se contentera d'utiliser ces outils en classe. Cela permet aussi aux élèves de les connaître à force de les utiliser. Je vois quelquefois des messages sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui demandent par exemple « Je voudrais utiliser Geniali. Comment fait-on ? Mais pourquoi veulent-ils utiliser Geniali ? Parce qu'ils voient des personnes qui ont créé des Geniali et qu'ils veulent faire pareil ? Mais la raison pour laquelle on utilise tel ou tel outil passe plutôt par l'usage qu'on veut en faire, et notamment en classe. Comment connaître donc les outils disponibles ? De nombreuses formations utilisent des outils que nous pouvons ensuite nous approprier pour nos cours. Je suis également abonnée à la liste de diffusion des outils TIS de Fidel Navamuel. Tous les dimanches, nous recevons un mail qui présente 4 ou 5 outils. C'est toujours très varié. Certains collègues aussi qui ont des chaînes YouTube et qui proposent des tutos sur tel ou tel outil, comme notamment Marianne Dupuis ou encore Nicolas Gobbe et sa chaîne YouTube Un Prof Heureux. Ce sont des vidéos assez courtes mais très bien faites. Elles permettent de prendre en main l'outil très facilement. Ces vidéos nous permettent de nous former à l'outil assez rapidement. Merci à eux. Il y a aussi Canotech, le Serpeg, qui propose de nombreuses ressources. Comme pour les podcasts, je vais vous donner mon top 3 de mes outils préférés. Le premier est sans aucun doute Canva, pour le rendu des créations très professionnelles. Le deuxième, ce serait Geniali. Cet outil a permis de donner une nouvelle dimension aux présentations, en intégrant des liens, des images, des vidéos. Le troisième est Kahoot, petite application qui permet de faire des quiz interactifs très ludiques avec le téléphone des élèves. Pour ne pas faire un podcast ennuyeux où je ferai un catalogue d'outils, je les ai classés en trois parties. Les outils au service de nos pratiques pédagogiques et professionnelles, les outils au service de la créativité et les outils numériques pour la ludification de nos pratiques. Pour commencer, les outils au service de nos pratiques pédagogiques et professionnelles. Nous utilisons toute la suite de Google, c'est-à-dire Gmail, Google Drive, Google Classroom. Je sais, vous allez me dire, Google n'est pas très RGPD. C'est vrai, vous avez raison. Pourtant, Google propose des outils très complémentaires, très faciles d'usage. Et en plus, une fois un compte Google créé, nous pouvons l'utiliser pour toutes sortes d'applications comme Padlet, Geniali, Canva. Ce qui permet de n'avoir qu'un seul identifiant et mot de passe. C'est loin d'être négligeable quand on connaît nos élèves qui ont une faculté à oublier identifiant ou mot de passe. Surtout qu'ils ont aussi leur identifiant ENT et souvent aussi les codes d'accès au réseau du lycée. Même les professeurs s'y perdent. De plus, Google Drive offre ses services de cloud avec la fonction partage très pratique pour tous nos travaux coopératifs. Lors d'un séminaire numérique en début de cycle, nous formons les élèves à tous ces outils et ils créent leur adresse Gmail professionnelle. Tous les professeurs mettent alors en place les mêmes outils avec les classes, comme notamment Google Classroom, ce qui permet d'harmoniser les pratiques et une prise en main par les élèves très rapide. Le fait d'utiliser les mêmes outils, les élèves les maîtrisent très vite et facilite la coopération équipe pédagogique et classe. Google Classroom, c'est quoi ? C'est un module très simple qui permet de créer un espace classe entre le professeur et la classe. Dans chaque module créé, il y a la possibilité d'échanger des infos, des liens, des vidéos dans le flux. Mais le menu « Travaux et devoirs » est très intéressant. Le professeur crée un devoir avec des consignes, une grille d'évaluation, une date limite de dépôt, et chaque élève peut y déposer son travail. Ainsi, il est possible de garder trace de tous ses travaux professionnels sur un cycle entier, par exemple les 2 ans des CAP, ou la première et la terminale Bac Pro. C'est peut-être aussi l'avantage par rapport à Pronote ou à l'ENT. Le fait de pouvoir garder cette trace, pas seulement sur l'année scolaire. Sans oublier tout le côté puissant de Google qui permet d'allier un agenda partagé et tous les documents déposés par l'élève sur Classroom seront aussi sur son Google Drive. C'est le cas aussi pour un chef-d'œuvre, un Google Classroom est créé en début de formation. Tous les travaux faits sont déposés sur le flux de ce Classroom. L'élève comprend qu'il travaille en équipe et que tous les travaux y sont partagés. Au bout des 2 ans, il peut retrouver tout l'historique du travail et l'aide à construire son oral. En enseignement professionnel, nous faisons créer à chaque élève aussi, en début de cursus, un Padlet qu'ils partagent avec leur professeur d'enseignement professionnel. Ce Padlet, appelé « portfolio », leur permettra de déposer tous leurs travaux professionnels, leurs rapports de stage, leurs CV, leurs podcasts, etc. Là aussi, en prenant le lien de partage de tous les documents de Classroom, ils n'ont plus qu'à copier ce lien et le déposer sur leur Padlet. Tout est facilité et permet aussi de contourner le problème de mémoire et de limite de gratuité de Padlet. Il existe une alternative à Padlet et je vais certainement envisager d'utiliser cet outil qui s'appelle la Digital. La Digitale propose une batterie d'outils tous RGPD et qui présentent les mêmes caractéristiques que Padlet, que Classroom Screen et d'autres outils. Vous connaissez Classroom Screen ? C'est un petit outil qui permet de guider les séances de cours avec par exemple un petit chrono quand on veut lancer un travail dans un certain laps de temps. Il y a aussi possibilité de mettre des post-it, d'y rajouter des liens, des quiz, des pictogrammes de travail. La Digitale propose son pendant avec l'avantage de pouvoir préparer ses écrans à l'avance et de les restaurer en arrivant en classe. Dans nos enseignements professionnels, il existe aussi des suites de logiciels intégrés qui permettent de travailler comme une entreprise avec ces mêmes outils. C'est le cas notamment de Odoo. Odoo est un logiciel open source de gestion intégrée comprenant de très nombreux modules permettant de répondre à de nombreux besoins de gestion des entreprises ou de gestion de la relation client. J'utilise avec mes classes de CAP-EPC les modules de site web, vente, achat, stock, qui permet de faire l'inventaire, mais aussi point de vente. Point de vente est un petit logiciel de caisse qui permet de simuler les ventes en caisse. Tout l'intérêt d'Odoo est que c'est une suite de logiciels intégrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, si je crée des articles à vendre, je retrouve ces articles dans le site web, mais également dans le module caisse. Tous les modules sont connectés les uns aux autres. Odoo est une suite utilisée par les entreprises, donc payante, mais il y a une solution pour nous les enseignants. Si quand vous créez votre base de données sur Odoo et que vous mettez en préfixe edu- suivi du nom de l'entreprise, alors vous pourrez créer autant de modules que vous le souhaitez gratuitement pour 10 mois. Alors ça représente une année scolaire par exemple, mais si vous voulez poursuivre alors au bout des 10 mois, il vous suffira de dupliquer votre base pour repartir pour 10 mois de plus. C'est une application très intuitive et en plus, Odoo a créé un jeu pour apprendre à s'en servir qui s'appelle Scale Up. Nous, enseignants, nous avons droit à un jeu gratuit. Il suffit d'en faire la demande. Je l'ai reçu au bout de 8 jours à peine et il est vraiment très intéressant dans sa démarche. Je vous laisse le découvrir sur leur site internet que je vous mets dans la description de ce podcast. J'ai également utilisé le module site web pour la création du site internet du shader des CAP première année. Je vous mets également le lien de leur site en description dans le podcast. Avec les CAP deuxième année, nous avons utilisé le module point de vente. Ils ont pu tenir la caisse, l'ouvrir avec un fond de caisse, enregistrer des ventes, gérer les différents modes de règlement et fermer la caisse. Ils ont pu travailler ainsi sur les compétences encaisser et ou accompagner l'encaissement digital, automatique et ou mobile. L'utilisation du numérique peut aussi être utilisée pour aider à la mémorisation. J'utilise avec mes classes l'outil Quizlet. C'est une application qui fonctionne sur le système des flashcards. Nous créons en classe les flashcards avec tout le vocabulaire professionnel. Mais ce qui est super avec cet outil, c'est que nous pouvons faire des petits concours en équipe. C'est le module Quizlet Live. L'outil crée les équipes aléatoirement et elles jouent les unes contre les autres. Dans une équipe, chaque élève est connecté avec son téléphone, il voit la question, mais chacun des membres a des réponses différentes. Ils sont donc obligés de coopérer pour répondre au quiz. Ça fonctionne, ce jeu provoque une sorte de compétition, mais l'intérêt est de le faire souvent pour travailler la mémorisation des mots de vocabulaire. Un outil qui travaille la coopération et la mémorisation. Ce petit outil fait partie de nos routines. Nous faisons un Quizlet Live tous les mercredis matin. Oui, vous avez entendu le mot routine, mais si vous voulez, j'en parlerai dans un prochain épisode de podcast. J'ai beaucoup parlé et je n'ai présenté que les outils au service de nos pratiques pédagogiques et professionnelles. Alors, si vous voulez, nous nous retrouvons pour un prochain épisode et je vous présenterai tous les outils numériques au service de la créativité, mais aussi les outils pour une ludification des pratiques. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour l'épisode 3, la suite des outils numériques dans nos pratiques pédagogiques.